Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour madame et monsieur, et merci de nous écouter sur Canal Académie, la radio en ligne qui donne la parole aux académiciens. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Noël Robert, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, venu à notre studio nous parler des écoles de sagesse du bouddhisme japonais. Bonjour Jean-Noël Robert.
Bonjour madame.
Vous nous avez apporté des pauses musicales et j'aurais voulu rapidement que vous nous les présentiez pour que les grands amateurs sachent bien ce qu'ils vont entendre.
Oui, donc ces pauses musicales, pour moi, il n'y a pas de plus belle musique que celle des mots. Et j'ai donc apporté trois enregistrements de textes japonais importants pour une raison ou pour une autre, et qui montrent bien cette espèce de voie parallèle qui constitue la civilisation japonaise, n'est-ce pas, entre l'être chinoise d'un côté et l'être japonaise de l'autre. Je vous ai apporté d'abord un enregistrement du Genji Monogatari, le dit du Genji, n'est-ce pas, ce grand roman
oui,
dont on a fait...
prince oui, merveilleux prince, qui voilà, meurt d'amour, le prince, presque.
Qui fait mourir les autres aussi. Et donc, qui remonte à l'époque de Heian, la grande époque classique du Japon, et qui est rédigé dans une merveilleuse langue de cour japonaise, faite par une femme dont on ne connaît qu'une sorte de surnom, Murasaki Shikibu, Dame Murasaki, qui est en réalité le nom d'une de ses héroïnes dans ce roman. Et je vous apporte donc l'enregistrement du texte qui est très célèbre.
Et
donc,
vous nous avez apporté...
Alors, ça c'est le premier,
aussi, oui.
Et le second, alors c'est justement un peu comme arrière-plan culturel du Genji Monogatari, du dit de Genji. Je vous ai apporté un enregistrement fait selon l'école Tendai, justement. Donc l'école Tendai qui, à son essor, à l'époque où le Genji Monogatari a été rédigé, c'est une lecture du Sutra du Lotus. Donc le Sutra du Lotus qui figure souvent d'ailleurs en arrière-plan dans certains épisodes de Genji Monogatari. C'est une lecture du Sutra du Lotus fait par des moines de l'école Tendai, du Mont Hiei, avec, selon la prononciation, sino-japonaise. Donc c'est du chinois, mais prononcé à la mode japonaise, que les Chinois, bien sûr, ne comprendraient absolument pas, qu'on ne peut pas non plus comprendre à l'oreille telle qu'elle en japonais, mais cette psalmodie est tout à fait caractéristique de la lecture des sutras bouddhiques au Japon. Et le troisième document, c'est alors quelque chose qui est peut-être aussi agréable pour les écoliers japonais que pouvaient l'être Cicéron et Virgile pour nous, c'est-à-dire ça rappelle souvent des heures, je ne le pense plus du tout maintenant, mais quand j'apprenais, c'était des heures de souffrance, oui. Et ce sont des enregistrements de poèmes chinois, il y a quelques poèmes qui sont parmi les plus connus des Japonais et des Chinois aussi d'ailleurs. C'est le patrimoine commun de l'Extrême-Orient. Et je vous les apporte lus selon deux procédés. La première fois, c'est lu dans cette lecture japonaise du chinois, donc qui était la lecture poétique pour les Japonais. Et la seconde lecture, c'est en chinois moderne, en pékinois, qui est aussi très éloigné d'ailleurs de la prononciation de l'époque, puisque ce sont des poèmes qui remontent au 8e siècle, n'est-ce pas ? Il faudrait peut-être les prononcer en taïwanais pour mieux avoir un aperçu de ce que pouvait être la prononciation de l'époque, à mon sens. Mais vous verrez bien comme ça la différence de prononciation entre les deux. Ça n'a pas du tout l'air d'être la même chose. Et pourtant, pour les Japonais comme pour les Chinois, ce sont des poèmes extraordinairement émouvants encore.
C'est entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. La recherche ne permet pas d'être plus précis, donc c'est entre le 6e et le 4e que l'on place l'époque de la vie terrestre du Siddhartha Gautama, dit Sakyamuni, le Bouddha historique dont l'existence est reconnue dans tout le monde bouddhique. Parti du continent indien, le bouddhisme voyagea à travers l'Asie centrale, la Chine, la Corée, et fut transmis officiellement au Japon vers 550 après Jésus-Christ. Il est donc assez tard venu dans l'archipel, mais la continuité remarquable de la communauté bouddhique japonaise permit une pénétration en profondeur des idées qu'elle véhiculait, et l'ampleur de la diffusion du bouddhisme se manifesta bien entendu dans l'art, dans l'architecture, dans la littérature à tous les niveaux, dans la langue et, par voie de conséquence, dans la mentalité japonaise. Jean-Noël Robert, avant de nous présenter les suhas des écoles de la doctrine de Sakyamuni et du Bouddha Amida, et avant encore d'évoquer la présence et la transmission bouddhique dans la langue, parlez-nous de la religion japonaise autochtone, de son panthéon, sa mythologie, ses rites. Quelles traces, quels traits la religion pré-bouddhique ont-elle laissé dans la culture japonaise ?
Oui, bien, c'est une question assez délicate, même il est assez difficile d'y répondre, parce qu'elle part d'un principe, la pétition de principe étant qu'il y avait une religion japonaise bien définie avant l'arrivée du bouddhisme et de la civilisation chinoise au Japon. Ce qui n'est pas du tout sûr. Il y avait une population japonaise qui était venue du continent quelques siècles auparavant. Ils avaient des croyances. On a certainement un reflet de ces croyances dans quelques mythes qui sont consignés dans les premiers grands monuments de la langue japonaise. Mais une religion constituée contre laquelle serait venu s'installer le bouddhisme, on ne peut pas dire exactement cela. Disons, je préfère la vue plutôt traditionnelle de l'historiographie des religions japonaises, selon lesquelles, en réalité, la religion japonaise, ce qu'on a appelé plus tard le Shinto, et le bouddhisme sont deux facettes d'une même religion plus ou moins syncrétique qui s'est développée peu à peu, n'est-ce pas ? En harmonie, en quelque sorte, ou parfois en concurrence, et vers la fin, en concurrence, entre les bouddhas d'un côté et les kami, les dieux japonais de l'autre, qui sont d'ailleurs très divers. Il faut bien voir qu'il y a une certaine contradiction entre les premières images représentations des kami dans ces grands monuments littéraires du 8e siècle japonais.
Je crois qu'il y avait 8 millions de kami.
Oui, ça alors c'est un...
Du,
oui,
du
c'est...
simple caillou à l'astre
oui,
solaire.
Oui, voilà, mais justement, mais ces cailloux et tout cela ne sont pas dans les premiers textes, n'est-ce pas ? Les kami des premiers textes sont bien personnalisés, ils ont des noms, ce sont des figures anthropomorphes, plus ou moins bien sûr étranges du point de vue humain, mais ce sont quand même des personnes. La vue selon laquelle, comme le dira bien plus tard, un penseur qui s'appelle Motori Norinaga, quasiment au 19e siècle presque, selon lequel tout arbre, tout caillou peut être considéré comme un kami. On peut même se demander si ce n'est pas l'influence du bouddhisme qui a développé ce genre de représentation.
Est-ce qu'il y avait des notions abstraites ?
Ça, c'est bien difficile aussi à dire. Les notions abstraites les plus anciennes au Japon sont notées par des caractères chinois, n'est-ce pas ? Donc, est-ce que ce sont des lectures des mots japonais plaqués de façon plus ou moins approximative sur des caractères chinois pour donner des notions abstraites? Est-ce qu'elles existaient antérieurement sans aucune contamination, pour ainsi dire, du chinois? C'est bien difficile à dire. Il y a évidemment un vocabulaire abstrait japonais, mais comme tout cela nous a été véhiculé par écrit, il n'y a pas de transmission orale, par exemple, qui serait, comme en Inde, n'est-ce pas, des mythes ou des textes qui auraient été véhiculés oralement en parallèle à des textes écrits. Tout nous vient de l'écrit et tout écrit a été transformé par la culture chinoise. Alors c'est quelque chose de très difficile à trancher. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en grosso modo, entre le 6e et le 7e siècle, se sont élaborés peu à peu, et bien sûr plus formellement au 8e siècle, mais on peut dire que sur ces 3 siècles, donc, se sont élaborés une pensée qui prenait déjà des traits typiquement japonais, dans la mesure où ils étaient le fruit d'un retravail fait au Japon de notions chinoises ou plus anciennes, pré-chinoises.
Mais pour quelle raison, au 6e siècle après Jésus-Christ, le Japon se résolut-il à s'ouvrir au bouddhisme qui provient
oui,
de l'étranger ?
Bien sûr, oui. Alors ça, c'est encore une vision peut-être un peu influencée par notre vue a posteriori. Il n'avait certainement pas l'intention d'importer une religion en tant que telle. Ça a été, comme tout ce qui arrive à cette époque du continent extrême-oriental au Japon, le bouddhisme est passé par la Corée, n'est-ce pas ? C'est la civilisation chinoise, mais qui passe par les petits royaumes qui se répartissent la Corée à l'époque. Et c'est un roi d'un de ces royaumes coréens qui fait don à l'empereur du Japon de l'époque, au souverain du Japon de l'époque, l'empereur est peut-être encore un bien grand mot, des dernières nouveautés en quelque sorte continentales. Il lui adresse une lettre très intéressante en disant pratiquement, j'exagère à peine, que le bouddhisme, on en parle beaucoup en Chine, n'est-ce pas ?
Et
c'est à la mode, c'est moderne, voilà, c'est le dernier cri de la civilisation. Et qu'un royaume qui a le bouddhisme dans sa vitrine, en quelque sorte, eh bien, part d'un bon pied. Alors, le bouddhisme arrive comme une partie de la culture chinoise, pas tant comme une nouvelle religion, comme une partie moderne, en effet, de la culture chinoise.
Oui, parce que le bouddhisme leur a paru assurer la supériorité de la Chine, comme le christianisme avait l'air... Je sais bien
oui.
que ce n'est pas le même endroit, mais apporter la supériorité de l'Occident.
Oui, en tout cas, voilà, ça peut être ressenti. Le bouddhisme, les missionnaires bouddhiques en Chine et ailleurs, d'ailleurs, étaient déjà des gens très habiles. Et en particulier, il y avait dans nombre d'écritures bouddhiques des garanties pour le souverain du pays qui protégerait telle ou telle écriture bouddhique, qui protégerait le bouddhisme en général, le clergé bouddhique, des garanties de prospérité du pays et de continuité de son gouvernement. Et donc, c'est vrai que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd à chaque fois. Et ça se voit dans toutes les régions où le bouddhisme s'est propagé, très largement, un peu comme l'ont fait, comme vous le disiez, les missionnaires chrétiens plus tard. On essayait d'abord de séduire les classes dirigeantes, et puis à partir de là, selon le principe de cuius regio et ius religio, en quelque sorte, eh bien, cela rejaillissait sur tout le reste du pays.
Donc il y avait des raisons politiques.
Oui, politiques, dans la mesure, je pense que c'était pas seulement le bouddhisme, mais c'était la culture chinoise en général qui était considérée comme le garant d'un bon pouvoir politique, d'un bon gouvernement politique. Et puis, comme à l'époque, le bouddhisme commençait à être bien implanté en Chine, on était à l'époque de la dynastie des Sui, n'est-ce pas ? Donc, on voyait bien que ça marchait, que ça donnait un certain lustre à l'État. Donc, ça a été incorporé. Mais on n'a pas l'impression que ça vienne d'une inquiétude religieuse, comme par exemple cet historien d'autrefois, Dodds, qui montrait que le christianisme est arrivé à un âge où le paganisme, les païens, enfin les pré-chrétiens de l'Empire romain étaient dans un âge d'anxiété, n'est-ce pas ? Là, on n'a pas,
d'éléments
qui vous fassent penser cela. Si on pouvait penser à un âge de l'anxiété dans le bouddhisme japonais, il sera bien plus tardif. Enfin, oui. 11e siècle, on pourra peut-être en reparler.
Oui, donc nous sommes à l'époque bouddhique. Et quelles furent les écoles et les écrits bouddhiques typiquement japonais ? Est-ce qu'elles se sont singularisées ? Comment est-ce que se sont singularisées par rapport à cette transmission chinoise et coréenne ?
Oui, alors ça, en effet, ça nous met un peu tout de suite dans le vif du sujet de la transmission de la sagesse et par les écoles de sagesse au Japon. C'est que le paradoxe du bouddhisme japonais, si on le compare par exemple à une grande tradition mieux connue chez nous, qui est plus à la mode chez nous, qui est le bouddhisme tibétain, le bouddhisme s'est transmis de la Chine au Japon en langue chinoise, n'est-ce pas ? Il n'y a pas eu de traduction extérieure, de traduction de la langue chinoise en langue japonaise, comme il y a eu des traductions du sanskrit en tibétain. Donc, ce qui est passé du bouddhisme est passé directement, puisque le chinois classique était la grande langue traditionnelle, la grande langue d'érudition
de
la culture intellectuelle japonaise, eh bien, c'est passé tel quel. Et les gens apprenaient à lire les textes bouddhiques comme ils apprenaient, d'une façon légèrement différente cependant, comme on apprenait à lire les textes confucianistes ou les textes, la poésie, etc. Donc, on ne peut pas parler à l'époque de grandes œuvres originales du bouddhisme japonais. Nous allons parler peut-être tout à l'heure des sutras bouddhiques, des grands textes bouddhiques qui vont constituer l'armature de la pensée bouddhique japonaise, mais il n'y a pas vraiment de traduction. Ce n'est que peu à peu qu'on va élaborer deux voies, n'est-ce pas, deux canaux principaux de transmission de cette culture, de ces enseignements. L'un sera, là, un peu comme chez nous, la prédication, n'est-ce pas, la prédication en langue vulgaire. Les moines vont faire des sermons à la cour, d'abord, au peuple aussi. Il y aura des moines plutôt spécialisés dans l'aristocratie, d'autres qui iront plutôt vers le peuple. Et puis aussi, alors, un canal très important et auquel je me suis beaucoup attaché, c'est la poésie japonaise, dont on a aussi des éléments très tôt, n'est-ce pas, dans ces monuments de la langue japonaise auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Dès le 8e siècle, on a déjà des poèmes en japonais consignés dans des textes rédigés en chinois classique. Mais à partir du 9e et 10e siècle, on va vraiment avoir une grande tradition de poésie japonaise dans lesquelles on va transposer des enseignements du bouddhisme en langue japonaise, ce qui constituera une sorte de canal de transmission et de traduction des concepts bouddhiques. Et ces deux voies, donc la prédication et la poésie, vont constituer les grandes œuvres de la culture bouddhique japonaise.
Seiyashi Rihaku Shouzen Gekko o miru Utagau raku wa kore chijou no shimo ka to Kobe o agete sangetsu o nozomi Kobe o tarete kokyo o omou
La poésie est dans une de vos parutions, vous disiez que le tanka, le poème court, est considéré comme l'expression par excellence de l'âme japonaise et vous évoquiez la richesse des images, la subtilité des concepts qui adaptent la religion étrangère plutôt difficile d'accès et qui, cette fois-ci, peut être connue de toute la population.
Oui, en effet, oui. La grande difficulté du bouddhisme au Japon, c'est d'abord une difficulté linguistique, en quelque sorte philologique. Les textes, les grands sutras, n'est-ce pas, étaient rédigés en chinois classique. À l'origine, ils étaient en sanskrit ou une autre langue indienne, enfin, largement en sanskrit pour ce qui s'est transmis au Japon. Et donc, les moines les lisaient directement dans une sorte de prononciation sino-japonaise, n'est-ce pas, d'une imitation japonaise de la prononciation chinoise, qui était très différente de la prononciation chinoise, mais pour les Japonais, c'était la prononciation chinoise. Et on ne pouvait absolument pas les comprendre. Les moines les comprenaient, mais à l'oreille, on ne pouvait pas les comprendre. Les gens les plus habitués reconnaissaient peut-être tel ou tel passage, mais ça ne pouvait pas se... C'était inintelligible sans avoir le texte écrit. Et puis, de l'autre côté, ces mêmes textes pouvaient être lus par un procédé très singulier, tout à fait propre à la culture japonaise, bien qu'il soit venu à l'origine de Corée, très certainement. Mais il a été abandonné en Corée, alors que les Japonais, au contraire, l'ont élaboré de façon de plus en plus fine et appropriée, n'est-ce pas ? On pouvait faire vraiment des choses extrêmement compliquées dans ce procédé. C'est un procédé qui consistait à transposer directement en langue japonaise le texte écrit chinois que l'on avait sous les yeux, n'est-ce pas ? On le transposait oralement. Et ça constituait à la fois une traduction et une interprétation du texte chinois. C'était par cela qu'on arrivait, alors plus ou moins à comprendre, il fallait quand même un entraînement très particulier, qui s'est quand même popularisé de façon assez singulière, puisque jusqu'à l'époque moderne, ce procédé était enseigné dans les écoles, n'est-ce pas ? Et puis donc, vous aviez ces deux procédés, et puis ensuite, la poésie japonaise, elle, avait des contraintes tout à fait spéciales, comme vous le disiez, c'était considéré comme le genre japonais par excellence, et étant japonais, elle avait cette poésie comme contrainte de ne pas employer de mots chinois. C'est-à-dire de mots chinois, c'est un peu comme en anglais, n'est-ce pas ? Vous savez que dans le vocabulaire anglais, tout le vocabulaire abstrait anglais est d'origine franco-latine. Que ce soit philosophie ou rédemption ou tout ce que vous voulez, tout cela est du français ou du latin, ou du grec pour philosophie. Eh bien, en japonais, c'est pareil, tous les mots abstraits sont en général d'origine chinoise. Or, dans la poésie japonaise, on ne peut pas employer ces mots d'origine chinoise. La poésie bouddhique japonaise, alors, avait un véritable, c'était une véritable gageure, n'est-ce pas ? Il fallait exprimer, puisqu'elle était souvent l'œuvre de femmes artistes d'un côté, mais aussi souvent de moines, il fallait donc qu'elle exprime dans ce vocabulaire entièrement japonais, dépouillé de tout mot chinois, les aspects les plus délicats, les plus abscons, les plus difficiles de la pensée bouddhique. Et c'est là qu'il y a le véritable art de la poésie bouddhique japonaise, c'est cette élaboration au cours des siècles, encore une fois de plus en plus méticuleuse et de plus en plus admirable par certains côtés, de cette pensée chinoise sous un habit japonais. Et ça a commencé alors à l'époque de Heian, n'est-ce pas, autour de l'an 1000, disons, et ça s'est continué tout au long de la civilisation traditionnelle japonaise.
Jusqu'à nos jours ?
Alors non, je ne dirais plutôt jusqu'à la fin de l'époque d'Edo, puisque après le...
Donc c'est 1868.
Oui, voilà, c'est peut-être même un peu avant. On a encore de grands recueils jusqu'au 18e, 19e siècle. Et puis après, évidemment, la modernité a quand même... Il y a eu un renouveau du tanka, enfin du waka, donc japonais, au XXe siècle aussi. Mais disons que largement maintenant, il est encore pratiqué, mais en langue moderne. Et on admet maintenant le vocabulaire sino-japonais, ce qui, à mon sens, lui fait perdre tout son sens, puisque ça devient une sorte de mixture qui n'a plus du tout les contraintes d'auparavant et qui se prive de cette espèce de jeu de passerelle, de transposition entre la langue chinoise et la langue japonaise, qui faisait tout l'intérêt, une bonne partie de l'intérêt du waka. Mais c'est vrai qu'encore maintenant, il s'est très étudié et pratiqué, mais sous d'autres règles.
Quand vous parlez de transposition et d'interaction, est-ce que vous aviez inventé le mot hiéroglossie ?
Ah, oui, merci beaucoup de me rappeler ça. Oui, c'est toujours un peu embarrassant d'inventer des mots. Enfin,
au contraire.
Encore que hiéroglossia existe dans le bailli, je crois. Enfin, mais là, je lui ai donné un sens légèrement différent. Donc, c'est à partir de cette transposition, de ce procédé de transposition du chinois bouddhique en japonais que j'ai élaboré cette notion de hiéroglossie qui consiste à étudier les rapports entre deux langues du point de vue de la pensée religieuse essentiellement. Et parce que c'est bien simple, le point de départ, c'est quand on lit ces poèmes japonais, qui sont entièrement japonais, qui sont de façade entièrement même, si on ne savait pas que c'était des poèmes bouddhiques, parce que c'est noté quand même. On sait qu'ils sont faits sur tel ou tel passage du Sutra du Lotus, par exemple. Donc on le sait, on n'invente pas. Et bien, il faut comprendre le rapport qu'il y a entre les deux. Mais si on ne savait pas ça, ils se présentent comme des poèmes tout à fait ordinaires. Enfin, ordinaires, ils sont très beaux, mais des poèmes parfaitement littéraires. Or, leur vrai sens, le sens que le poète lui-même lui a donné, n'est-ce pas, ou la poétesse, ne se découvre qu'à la lumière du texte chinois, n'est-ce pas ? C'est ce que j'appelle donc la relation hiéroglossique entre une langue sacrée ou de prestige et une langue, elle n'est pas vulgaire, parce qu'en réalité, ces poèmes sont écrits dans la langue de la cour japonaise, ils sont dans
un japonais classique. C'est pas une langue vernaculaire.
Non, c'est pas une langue vernaculaire. Il y a des poèmes, c'est peut-être pas la peine, ça les entraînerait trop loin, mais il y a aussi des poèmes bouddhiques beaucoup plus populaires, où là, on mélange les deux séries de vocabulaire, mais ils sont beaucoup moins riches, justement, de densité. Et c'est vraiment dans cette interaction entre sutra et waka que j'ai découvert le phénomène de la hiéroglossie, qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres langues, à plus ou moins un degré différent de manifestation.
Mujo jin jin mi myo ho, hyaku sen man go nan so gu, kakon ken mon tok ju ji, gange nyo rai shin jitsugi.
Je crois que vous avez tout à l'heure parlé des sermons, bien sûr, et puis des prêches par image, et puis de l'art populaire, de la narration comique. Ça, c'est une façon un peu plus détendue de faire de la transmission.
Oui, bien sûr, il y a eu tout cela, existe à des degrés divers au Japon. Il faut bien voir aussi que la prédication, enfin pour rester dans le monde sino-japonais qui est déjà assez vaste, il faut bien voir que la pratique de consigner par écrit les sermons des maîtres, comme en Occident d'ailleurs, est une pratique très ancienne. Je me suis attaché plus particulièrement à l'étude d'une école chinoise qui s'appelle le Tiantai, n'est-ce pas, le Tendai en japonais, la terrasse céleste. Eh bien, les grandes œuvres du VIe siècle, donc qui remontent au VIe siècle de cette école, sont des sermons du maître du Tiantai, n'est-ce pas, qui ont été réunis par l'un de ses disciples. Donc ce sont déjà des sermons, un texte oral qui a été pris par écrit. Au Japon, très souvent, les plus grandes œuvres de la littérature bouddhique japonaise, tout à l'heure vous parliez de ces œuvres originales, nous les verrons peut-être tout à l'heure pour l'époque de Kamakura, n'est-ce pas, sont souvent des sermons qui ont été consignés, remaniés. Après, alors, il y a énormément de problèmes dans l'histoire de l'élaboration du texte, mais c'est souvent des choses qui ont été prêchées aux moines en général ou au peuple plus généralement, et remaniées peu à peu. Alors là, c'est encore dans une langue beaucoup plus populaire, qui n'est pas du tout la langue
des Wakas. Familière.
Oui, extérieurement facile d'accès, mais oui. On verra que c'est parfois...
Il y a aussi des contes édifiants transmis aussi par récitation.
Oui, par récitation, ou souvent, c'est-à-dire, c'est un peu comme chez nous en Occident, les exemplats médiévaux, c'est-à-dire que le texte était rédigé pour les moines, qui après en faisaient la matière de leur sermon. On s'en servait pour illustrer un sermon, illustrer tel ou tel point de doctrine. C'est vrai qu'on a les deux cas de figure. Je prendrai comme exemple deux recueils très différents qui ont été étudiés par mes deux maîtres, en quelque sorte. L'un, ce sont les histoires qui sont maintenant du passé, que Bernard Franck avait partiellement traduit en français, donc un texte de l'époque de Heian, qui date du XIe-XIIe siècle, et qui sont là des textes vraiment rédigés à l'intention des moines, dans un style un peu guindé, un peu truffé de mots japonais, mais qui sont parfois aussi assez légers comme matière. Enfin, il y a de tout. Et puis, un autre beaucoup plus tardif, qui est du XIIIe-XIVe siècle, c'est ce qu'on appelle les recueils de sable et de pierre, le Shasekishu, que mon ami et maître Hartmut Rottermund a traduit aussi partiellement en français, et qui là sont des textes plutôt appartenant à l'amidisme, à la foi au Bouddha Amida, n'est-ce pas, et qui sont souvent très comiques aussi. Alors vous avez les deux recueils comme ça qui sont assez contrastés, de deux périodes différentes. D'ailleurs, on voit l'un remontant à la grande période classique du bouddhisme japonais, l'autre à la période où la réforme, enfin ce qu'on appelle parfois la réforme bouddhique, en tout cas le
grand
changement.
Une espèce de schisme.
Sans aller d'un certain côté, oui, une certaine rupture avec la tradition, en tout
Mais
cas.
De toute façon, le schisme, c'est le mode de croissance classique de toutes les grandes religions.
Oui.
Donc,
Plutôt que schisme, moi j'emploie parfois le mot que c'était M. Yamaori Tetsuro, un grand spécialiste des religions japonaises, qu'il avait employé et que j'aime bien, c'est assez parlant. C'est ce qu'il appelle la sissiparité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce sont les microbes ou certaines cellules qui se divisent et chacune mène sa vie de son côté. Alors plutôt qu'un schisme, disons que c'est vrai que la dynamique générale des mouvements bouddhiques au Japon, parce qu'ils sont très centrés sur des maîtres, tout le monde a tendance à vouloir se prendre pour un maître à un moment ou à un autre, donc plutôt que de privilégier une tradition, c'est-à-dire en quelque sorte se soumettre soi-même, se laisser disparaître, se laisser diluer dans une tradition dont on ne serait qu'une partie, beaucoup de maîtres japonais préféraient instituer leur propre tradition. Et après eux, eh bien, à deux ou trois générations suivantes, vous aviez encore une sissiparité, justement, une division, une nouvelle division. Si bien qu'on a de grandes lignées générales qui se sous-divisent en une multitude de petites lignées, chacune vouant gaillardement l'autre aux gémonies. Ça continue jusqu'à nos jours, d'ailleurs.
妙法蓮華経序本第一要心三蔵星駒羅十部長役妙世賀門一時仏住王者定義宗修萬二千人空海勢阿羅漢鐘羅異人
Alors, nous avons vu les supports de la transmission, contes, sermons, poésie, etc. J'aimerais que l'on parle des périodes des différentes capitales, de ces aires sacrées qui ont toutes une doctrine. Alors, on ne va pas non plus entrer dans les détails de chacune, mais j'aimerais que vous nous présentiez les différences entre la période de Nehan, celle de Kyoto, Kamakura, etc., jusqu'à la période Edo. Il y avait des grandes directions de ces doctrines.
Oui, c'est l'historiographie traditionnelle, mais qui n'est pas forcément fausse, n'est-ce pas, qui distingue ces grandes périodes. À vrai dire, c'est assez intéressant de voir qu'on remarque dès le début certains traits du bouddhisme japonais qui vont d'abord être effacés, puis qui vont revenir de façon beaucoup plus lourde après pour donner finalement une sorte d'impulsion définitive. En particulier, nous avons parlé de l'introduction du bouddhisme à la mi-6e siècle. On peut dire que pratiquement de cette mi-6e siècle jusqu'à la moitié du 8e siècle, n'est-ce pas, jusqu'aux environs de 750, lorsque la capitale est installée à Nara, eh bien, on n'a pas d'ordination bouddhique valable au Japon, n'est-ce pas? C'est assez paradoxal puisque le bouddhisme est né, il y a eu des grandes figures déjà légendaires du bouddhisme qui se sont installées. Mais si on avait eu affaire à un moine, un abbé un peu pointilleux du continent, il aurait dit que aucune ordination n'avait été faite selon les règles de la discipline bouddhique japonaise, qui sont assez strictes, n'est-ce pas ? Et de la discipline bouddhique générale, qui sont assez strictes pour ce qui est de l'ordination. Ce n'est vraiment qu'un peu après 750 qu'on a instauré avec le bouddhisme de Nara un bouddhisme fondé sur la grande discipline monastique, tout à fait importé directement de Chine. Encore une fois, vous voyez cet aspect culturel. Les Japonais envoient des émissaires en Chine pour chercher un moine bouddhique chinois qui viennent faire installer une estrade d'ordination en règle, donc pour ordonner les moines, n'est-ce pas, en règle au Japon, à Nara, et c'est là que vont se faire les grandes ordinations, une vraie communauté bouddhique, enfin, qui puisse être reconnue partout, et les écoles vont être structurées selon des modes beaucoup plus rigoureux. Et ce qui est assez intéressant, alors évidemment, on est proche du pouvoir en même temps, donc c'est certainement on peut estimer que c'est aussi une façon que le pouvoir a de montrer sa légitimité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce sont des grandes écoles de l'époque. Je voudrais en distinguer trois spécialement, qui sont vraiment très philosophiques, fondées sur des textes extrêmement difficiles à lire et qui ont besoin vraiment d'une étude spéciale. Ce qui est aussi intéressant, c'est que de ces trois grandes écoles que je retiens, il n'y en a qu'une qui soit vraiment fondée sur un sutra, sur un texte bouddhique. C'est l'école du Kegon, n'est-ce pas, l'école qu'on appelle de l'ornement fleuri, l'ornement de splendeur, qui est un grand sutra, un énorme sutra bouddhique dont on conserve simplement quelques extraits en sanskrit et qui a une vision tout à fait philosophique, cosmologique même du monde. C'est vraiment très intéressant. Et cette vision cosmologique s'est manifestée dans le grand Bouddha de Nara, n'est-ce pas, du Todaiji, dont on a maintenant une copie qui est très tardive, puisqu'il ne subsiste de l'époque de Nara qu'une partie du piédestal, tout le reste a été détruit. Mais ça montre bien cette vision d'un univers où toutes les choses sont liées les unes aux autres et sont en quelque sorte l'émanation d'un Bouddha primordial, le Bouddha de grand soleil, n'est-ce pas, Mahavairochana, Dainichi en japonais, qui est vraiment le Bouddha central de ce sutra de l'ornement de splendeur. On voit que ce n'est pas Shakyamuni, donc c'est amusant de voir que le Bouddha historique n'est pas à l'ordre du jour à la grande époque de Nara, n'est-ce pas ? L'autre école qui est très intéressante aussi, c'est l'école de Hosso, le Hosso-shun, ce qui veut dire les marques des dharmas, les marques des phénomènes. C'est une espèce d'école phénoménologique, comme on l'a parfois traduit, qui est tout à fait philosophique aussi, et fondée non pas sur un sutra, donc sur un texte censé être prêché par le Bouddha, mais sur une sorte de traité philosophique. Qui est considérablement postérieur au Bouddha. Alors, ce texte qui s'appelle en chinois et japonais « La réalisation du rien que penser » est attribué à un philosophe bouddhique indien qui s'appelle Vasubandhu, mais en même temps, il était considérablement remanié dans sa rédaction chinoise. Alors, on ne sait pas exactement à qui il faut l'attribuer. Mais il est dans la mouvance du grand voyageur chinois Xuanzang du 7e siècle, qui lui était parti chercher la vraie religion bouddhique, la vraie voie bouddhique en Inde, n'est-ce pas, avait appris le sanskrit, était resté une vingtaine d'années en Inde, était revenu et s'était mis à la traduction de textes, avec ses disciples, de textes sanskrits. Donc à l'époque, vous voyez, là on est vers 750, le Hosso-shu est arrivé un peu avant au Japon bien sûr, mais donc pratiquement c'était le dernier cri encore du bouddhisme chinois qui arrivait au Japon à cette époque-là.
Et après les écoles ont été plus marquées japonaises.
Pas tout à fait encore, nous allons passer sur la troisième parce qu'elle est un peu compliquée, mais si nous passons à l'époque suivante, alors la capitale va changer de Nara, elle va passer à l'actuel Kyoto, n'est-ce pas, Heian-kyo, c'est donc l'époque de Heian autour de 800, et là vont venir deux nouvelles écoles, encore une fois l'école du Tendai, l'école Tiantai chinoise et l'école Shingon, donc l'école ésotérique. Et ce qui est amusant, c'est que là, ce n'est pas le dernier cri. Au contraire, les Japonais vont chercher en quelque sorte des doctrines antérieures à ce qui était le dernier cri, puisque l'école de l'ornement de splendeur dont je vous parlais, ou l'école de phénoménologie, qui n'est pas du Hosso-shu, était arrivée après le Tendai en Chine. Mais les Japonais, donc, ont besoin, si vous voulez, ils se disent, on a besoin d'une nouvelle école pour plusieurs raisons. D'abord, le changement de capitale, il y a aussi des raisons politiques, sans doute le changement de capitale exigeait qu'on ait peut-être aussi un changement de point d'équilibre du bouddhisme, il fallait de nouvelles écoles.
Est-ce que c'était pas la puissance des monastères de la précédente capitale, par exemple, le Nara, qui poussait la cour à se déplacer
aussi cela
et à trouver, fonder une autre ère sacrée, une autre capitale?
Oui, c'est une des explications. Peut-être aussi des explications purement, disons, de superstition, de géomancie, n'est-ce pas, puisqu'il y a eu des épidémies. Il y a eu plusieurs changements de capitale avant que l'on s'installe à la capitale de Heian, de Kyoto. Donc. Et certainement aussi le fait que ces grands monastères avaient la haute main sur les ordinations bouddhiques, donc sur le monde bouddhique en général, constituait une sorte d'obstacle aussi pour le gouvernement politique. Et il est vrai que l'une des principales ambitions de l'école Tendai, c'est d'avoir ses propres centres d'ordination à Kyoto. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on va aller chercher donc une étape antérieure du bouddhisme chinois pour en faire le dernier cri au Japon, n'est-ce pas ? On voit que là, il y a une certaine séparation de la dynamique historique du bouddhisme chinois. Les Japonais vont, comme on dirait maintenant, faire en quelque sorte leur marché sur le bouddhisme ancien plutôt que le bouddhisme ultramoderne. Alors que d'un autre côté, le Shingon, l'ésotérisme, est lui en effet plus récent, arrivé récemment en Chine.
Parce que le Tendai, c'est l'exotérisme et le Shingon, c'est l'ésotérisme.
Voilà, alors c'est très intéressant aussi de voir que je vous ai parlé des côtés très philosophiques et métaphysiques de l'ornement de splendeur, n'est-ce pas, du Kegon. Mais le Tendai a lui aussi un aspect tout à fait philosophique, mais disons moins exubérant dans son caractère cosmologique, mais beaucoup plus rigoureux dans son système de pensée, qui est un système de classification des doctrines chinoises antérieures, des doctrines bouddhiques antérieures, qui donne aux Japonais en quelque sorte une grille de lecture du bouddhisme qu'ils avaient sous les yeux, ce qui leur permet de mieux se repérer. Alors c'est ce qu'on appelle l'enseignement exotérique, disons philosophique. Je pense qu'il ressemble beaucoup par certains points à la scolastique médiévale, donc je parle souvent de scolastique à son sujet. Et donc ça c'est l'enseignement exotérique. Et de l'autre côté, vous avez l'enseignement ésotérique du Shingon, qui est entièrement différent dans ses buts, puisqu'il est fondé sur une pratique qui n'est plus une pratique, disons, balisée par des textes et des critères extérieurs, mais vraiment validée par une relation directe avec un maître qui confère des initiations secrètes, donc ésotériques, à un disciple. Et vous avez là deux hiérarchies qui vont maintenant, à partir de là,
toujours continuer parallèlement.
Pratiquement, oui, vous avez une hiérarchie exotérique et une hiérarchie ésotérique. Et alors souvent, d'ailleurs, les Japonais feront plus de cas de la hiérarchie ésotérique que de la hiérarchie exotérique. Mais les deux fondés sur des textes et des pratiques chinoises.
Jing Ye Si, Li Bai. Chuang Qian Kan Yue Guang. Yi Shi Di Shang Shuang. Ju Tou Wang Shan Yue. Di Tou Si Gu Xiang.
Alors, les écoles qui ont suivi pour les capitales qui ont suivi.
Oui. Alors, justement, oui, c'est là que ça devient un peu amusant de voir que les deux traditions, à la fois de Nara et de Heian, eh bien, vont finir par peser un peu sur les jeunes moines bouddhistes enthousiastes, n'est-ce pas, qui, en se lançant dans des pratiques, souvent voudraient avoir des résultats concrets. Plus rapidement, les deux, que ce soit le Tendai, pour reprendre les deux écoles, que ce soit le Tendai ou le Shingon, ce sont des moyens de progression très lents, puisque vous avez de longues études à faire d'un côté, et de l'autre côté, des initiations à prendre graduellement qui se font au terme de pratiques très longues,
c'est
parfois rigoureuses.
Très hiérarchique.
C'est très hiérarchisé. Les plans de carrière sont plutôt longs, si vous voulez. Il y a, de façon très amusante, on voit que les grands fondateurs des nouveaux courants qui constitueront l'époque de Kamakura, de la fin du XIIe siècle, donc qui vont jusqu'au XIVe siècle, au milieu du XIVe siècle, l'époque où le gouvernement impérial va s'affaiblir considérablement au profit des premiers shoguns, que nous verrons réapparaître plus tard à l'époque d'Edo, eh bien, voir tous les grands fondateurs de ces nouveaux mouvements, que ce soit Honen, Shinran, Dogen, Nichiren, ils sont tous passés par l'école Tendai. Ils sont même tous passés par le mont Hiei, n'est-ce pas, le Enryaku-ji, qui est le grand monastère du Tendai proche de Kyoto. Mais ils en sont sortis. Enfin, ils en sont sortis, leur biographie dit toujours mécontent de la lenteur, de l'inefficacité des doctrines, etc. Chacun ayant cru trouver une voie plus rapide, une voie plus efficace de parvenir à ce qui doit être la fin du bouddhisme, c'est-à-dire la libération personnelle, la délivrance du cycle des naissances, n'est-ce pas? Et alors, chacun aura une réponse personnelle à cela, mais elles sont similaires dans le fait qu'elles rejettent la tradition et qu'elles sont, on pourrait les caractériser comme une pratique rapide, presque immédiatement efficace, n'est-ce pas? En particulier, la croyance en l'efficacité de l'invocation du Bouddha Amida, n'est-ce pas? Où il suffit, selon certaines croyances, d'invoquer le Bouddha Amida, ne serait-ce qu'une fois, même sans y penser, pour être sauvé, c'est-à-dire pour être accueilli dans son paradis, dans sa terre pure, d'où l'on n'aura pas à renaître, par exemple.
Oui, c'est la théorie, la doctrine de la terre pure.
Oui, voilà. C'est...
Et qui permet à des gens de toutes sortes, même des illettrés,
oui, bien
d'accéder.
Sûr, oui.
au Bouddha Amida.
Tout à fait. Et même, il y a des, justement, nous parlions tout à l'heure de la collection de sable et de pierre de le Shasekishu, n'est-ce pas, de ce moine du XIIIe siècle. Il y a une anecdote très amusante où un moine voit des pêcheurs dans un lac. Il dit, ah, c'est formidable ce que vous faites, vous invoquez constamment le Bouddha Amida, vous serez certainement sauvé. Les pêcheurs se demandent pourquoi, on ne voit pas tellement ce qu'on fait. Il dit, mais si, voyez, vous jetez vos filets. Et le filet en japonais se dit ami, n'est-ce pas? Donc c'est les deux premiers. Alors vous jetez vos filets, puis les vaguelettes qui viennent battre contre vos barques. Alors il y a beaucoup de mots imitatifs en japonais, ces vaguelettes font plouf plouf, n'est-ce pas? C'est dabu dabu en japonais. Alors vous dites ami dabu, non, c'est ami dabutsu, n'est-ce pas? Alors donc ils invoquent constamment dans leur métier le Bouddha Amida.
Le Bouddha Amida, voilà, oui, tout en pêchant, voilà, sans le vouloir.
Voilà, sans le vouloir, et donc ils seront sauvés, n'est-ce pas?
Alors rapidement, parce qu'après je voudrais que nous parlions de la méthode de transmission pour les enfants, les jeunes élèves, ça sera un côté plus pragmatique. Mais rapidement, les dernières grandes écoles qui sont typiques du bouddhisme dans, par exemple, l'ère Edo.
Oui, alors c'est assez intéressant de voir qu'à l'époque d'Edo, toutes ces grandes écoles vont rester, n'est-ce pas? On compte à peu près 13 écoles traditionnelles, enfin à l'époque, déjà à l'époque de Kamakura. Elles vont rester et puis gagner tout en dignité et se refaire même selon... Il y a une sorte de bouddhisme universel japonais. C'est vrai qu'on va beaucoup compter à partir de l'époque d'Edo à cause de la diffusion générale du savoir, n'est-ce pas? Le confucianisme va devenir une force tout à fait importante dans le monde de la pensée d'Edo. Alors le shintoïsme va se constituer vraiment en véritable courant national. On va avoir vraiment des penseurs.
Shintoïsme.
Alors plutôt, je dirais, une naissance du shinto, plutôt, puisque le shintoïsme ne s'était vraiment jamais constitué à ce point auparavant. Vraiment un shinto séparé du bouddhisme et avec énormément de recherches philologiques. Là, on voit que philologie et nationalisme vont aller de pair. Donc le bouddhisme va devoir se montrer à la hauteur en quelque sorte et on va voir vraiment apparaître dans toutes les écoles de grands savants bouddhiques, des personnages immenses qui vont à la fois non seulement étudier leurs propres écoles, mais aussi étudier toutes les autres écoles pour pouvoir discuter, n'est-ce pas? Et le bouddhisme va acquérir une stature qui préfigure un peu les études bouddhiques modernes qui seront après Meiji. Je pense qu'à l'époque d'Edo, le clergé bouddhique, malgré ce que l'on dit souvent, on parle souvent d'une certaine dégénérescence qui est peut-être vraie dans certains endroits, mais c'est peut-être à l'époque d'Edo qu'on voit les plus grands esprits encyclopédiques, n'est-ce pas? Et là encore, c'est assez amusant de voir qu'au Tibet, on a un peu le même procédé, puis le même processus, puisque l'on voit aussi ce qu'on appelle les mouvements syncrétiques bouddhiques, où les moines sont spécialistes de toutes les écoles. On a un peu la même chose au Japon. Et en même temps, il y aura un souci de la part des laïcs, cette fois, un volontarisme laïque, de se mettre eux-mêmes à l'étude des textes bouddhiques. Et on voit réapparaître aussi cet intérêt pour les poésies bouddhiques japonaises, avec d'immenses recueils qui vont être faits à l'époque, où on va faire des recueils de poèmes bouddhiques consacrés à tel et tel sutra, avec de grands commentaires. C'est une époque assez extraordinaire. Je me demande toujours ce que serait devenu le bouddhisme japonais s'il avait pu continuer ainsi sur sa lancée sans qu'il y ait l'intervention de l'Occident, qui a bien sûr tout bouleversé, qui l'a fait repartir sur de nouveaux rails. Mais on est vraiment arrivé à l'âge d'Edo, à une époque tout à fait singulière de plénitude du bouddhisme, à la fois comme discipline savante et puis comme, je pense, une assez grande diffusion dans le peuple. Là encore, les motivations politiques ne sont pas à négliger, puisque vous le savez bien, après la persécution anti-chrétienne du XVIIe siècle, on avait obligé tous les Japonais à s'inscrire en quelque sorte.
À s'enregistrer sorte, comme non-chrétien.
Comme non-chrétien, dans un temple bouddhique. C'est de là que vient la pratique qui est encore commune maintenant. On se fait enterrer dans telle ou telle tradition bouddhique, n'est-ce pas? Alors, il est sûr qu'il y a aussi un arrière-plan politique qui n'est pas à négliger. Et on voit d'ailleurs le pouvoir politique, les shoguns d'Edo intervenir. Quand il y a des querelles religieuses un peu trop bruyantes, eh bien on les fait taire tout de suite avec des répressions assez sévères. Les moines ont le droit de débattre et de disputer comme ils l'ont fait depuis toujours, mais sans que ça crée de scandale public. On voit bien à cette époque-là que le gouvernement entend que les choses restent au bon niveau.
Oui. Et alors qu'en est-il des jeunes élèves, des classes, des petits?
Oui, c'est très amusant. C'est vrai que, un peu comme chez nous, on a souvent dit que le degré, alors on peut pas dire alphabétisation pour le japonais, je crois que maintenant on essaye d'employer le mot anglais littératie, mais ça ne va pas très bien. En tout cas, beaucoup de gens savaient lire au Japon, certainement d'époque très ancienne d'ailleurs. On a des espèces de graffitis qui datent dès l'époque de Nara, qui sont en chinois classique et qui sont parfois d'un contenu tellement trivial qu'on ne pense pas que ce soit de grands poètes qui les aient rédigés, donc ça doit être assez populaire.
Mais vous avez de belles gravures et de belles peintures aussi qui montrent les classes.
Oui, alors ça, c'est
petite
justement...
classe, oui. Pas toujours sage.
Oui, oui, en effet. Alors, le nom même de ces classes est tout à fait intéressant parce qu'il montre l'implication du bouddhisme. On les appelait les terakoyan, littéralement les petites écoles, les officines de temples. Parce qu'en principe, c'était les enfants d'un village. C'est un peu d'ailleurs ce qui se passait en Asie du Sud-Est. Vous avez rencontré parfois des Cambodgiens d'autrefois qui vous parlent de la pagode où vous allez étudier. C'était là qu'on enseignait de l'écriture. Eh bien, dans les villages en particulier ou dans les quartiers, le temple du quartier servait en même temps de salle de classe pour les enfants du village. Soit l'abbé du temple qui faisait lui-même ou l'un de ses fils ou de ses assistants faisait office de maître d'école, soit un bourgeois, une personne du quartier, louait cette salle pour enseigner les enfants. Et on y conférait un enseignement fondé essentiellement sur des côtés pratiques. On apprenait à lire et à écrire le syllabaire japonais, on apprenait à compter. Mais on apprenait aussi, dès qu'on allait un peu plus loin, on apprenait tout de suite les classiques chinois. On apprenait souvent à lire à partir des entretiens de Confucius. On a de nombreuses allusions à l'époque d'Edo, justement, là, puisque c'est vraiment à l'époque d'Edo que ce système s'est propagé. On a de nombreuses allusions qui montrent que tout le monde connaissait une grande partie des entretiens de Confucius, un peu comme le De Viris Illustribus de l'époque. On apprenait donc à lire ce chinois classique dont je vous ai expliqué tout à l'heure le procédé de transposition. Cela était tout à fait diffusé dans toutes les couches de la population. Là, ce sont les petites classes, ce sont les jeunes gens et les jeunes filles. On a aussi sur des gravures quelques petites filles aussi qui sont là, qui apprenaient à lire et à écrire. Pour les femmes, il y avait aussi l'ikebana. On a une image qui montre une école d'ikebana aussi. Mais on a un peu le même procédé, même dans les grands temples japonais, puisque j'avais un peu travaillé sur les catalogues des librairies, des bibliothèques monastiques de ce temple de Kyoto dont je vous parlais tout à l'heure, du grand temple du Tendai. Et là, on voit que ces grands monastères sont divisés en petits pavillons, n'est-ce pas ? Chacun sous la coupe d'un... la coupe ou la bénigne, certainement bienveillante d'un abbé. Et on voit très bien ce qu'ils étudiaient, n'est-ce pas ? Et on a toujours, à côté des textes bouddhiques, on a toujours des textes, les classiques chinois qui sont là, qui servent vraiment pour l'enseignement des jeunes moines, des novices. On apprenait certes le bouddhisme, mais aussi la culture générale était toujours présente, un peu comme dans les monastères médiévaux, enfin dans certains monastères et à certaines époques, on apprenait Virgile et les poètes latins en même temps que la Bible, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs avec les mêmes préoccupations, disons, de purisme linguistique, puisque la Bible latine était considérée être rédigée en mauvais latin, donc pour réparer cela, on apprenait Virgile et Cicéron pour avoir un meilleur latin. De la même façon, le chinois bouddhique n'était pas considéré comme du bon chinois classique. Et pour apprendre le chinois classique correct, il fallait faire référence au grand classique chinois pré-bouddhique. C'était à peu près la même chose.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Noël Robert de nous avoir montré à quel point l'histoire de la quête spirituelle du peuple japonais est complexe. Elle témoigne en effet des deux constantes de la mentalité japonaise, son indépendance et son conservatisme. Merci.
Merci beaucoup.